Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de l'Allée. Nous sommes toujours avec Muriel Duguay.
Bonjour.
Bonjour Muriel. La suite du programme aujourd'hui, c'est toujours sur le jardin.
Voilà, tout à fait. C'est le printemps, hein, cette saison. Donc on a vu dans la dernière émission comment économiser l'eau au jardin, toujours dans l'idée d'essayer de limiter notre impact sur les zones humides et sur la qualité de l'eau. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur les techniques qui permettent de jardiner au naturel, notamment les engrais verts et les produits au naturel. Alors pour en parler, on accueille Jackie.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien, je m'appelle Jackie Brard, je suis jardinier professionnel à la retraite et voilà, je participe à des associations de jardinage. Hein. En fait, on a surtout deux associations, Jardin Nature 48 et puis Verger de Lozère. Alors Jardin Nature 48, c'est vraiment le jardinage dans son ensemble, légumes, etc. Et Verger de Lozère, c'est tout ce qui va concerner les arbres fruitiers.
D'accord. Et tu es par ailleurs administrateur de l'ALEP.
Je suis aussi, quand on est naturaliste, on est jusqu'au bout, donc je suis administrateur de l'ALEP.
D'accord, très bien. Alors là, le printemps arrive, on sent déjà l'appel de la terre et du jardinage. C'est quoi, ça veut dire quoi jardiner au naturel ?
Eh bien, on va se rapprocher, jardiner au naturel, on le fait de plus en plus. En fait, ça concerne, par exemple, tout le jardin. Disons qu'en ce moment, on parle beaucoup de permaculture. Eh bien, la permaculture, ça va être un petit peu le terme générique qui va recouvrir toutes ces pratiques de jardin au naturel. En ce moment, c'est très, très à la mode.
D'accord. Alors ça consiste en quoi concrètement en ce moment ? Par quoi est-ce qu'on peut commencer en ce mois de mars si on veut se mettre à la permaculture, jardiner au naturel, essayer de changer un peu nos pratiques ?
Voilà. Alors pour changer les pratiques, en fait, il faut bien considérer le jardin non pas en saison, mais dans sa continuité. C'est-à-dire que ben, tant pis s'il y a un moment où on commence comme maintenant, eh bien on va essayer d'aérer le sol puisque maintenant les sols se sont un peu réchauffés. Pour aérer le sol, eh bien on ne retourne pas le sol comme le faisaient nos grands-parents. Hein, on va se servir plutôt des 10 premiers centimètres de la surface du sol, puisque c'est un écosystème en règle générale. Donc on va pratiquer ou avec une griffe ou avec la grelinette, hein, qui est une espèce de bêche, on peut dire, mais qui va permettre de bouger la terre sans passer dessus.
Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que bêcher et retourner complètement, ça désorganise en fait le sol qui a un milieu équilibré à part entière.
Voilà, la vie du sol, en fait, se fait grâce à toute une microfaune qui peut y avoir à l'intérieur. Il y a, en surface, eh bien, c'est une microfaune qui va profiter de la lumière du jour. Et par contre, en dessous, c'est une microfaune qui ne peut pas supporter cette lumière du jour, qui, donc, est pas faite pour vivre de cette manière. Alors, on estime bien que, ben, si on retourne la terre, on va mettre par-dessus des petites bactéries, des petits insectes même, qui en fait vont rapidement mourir parce qu'ils sont pas à l'ombre. Et donc voilà, on va déplacer le sol hein, pour donc l'ameublir, mais sans le retourner.
Voilà, parce que si on le retourne, on perturbe plutôt et le temps que ça se remette en place, on fait plutôt du mal que du bien. Donc voilà, un nouvel outil pour le quotidien, c'est la grelinette, investir dans une grelinette.
Alors, ceci dit, la grelinette, c'est dans un premier temps, s'il faut vraiment remuer comme ça. Quand je te disais tout à l'heure que, en fait, c'est à longueur d'année qu'il faut le faire, on en parlera tout à l'heure des engrais verts, mais si j'avais mis à l'automne, si j'avais déjà commencé à faire mon jardin de façon un peu permaculturelle, eh bien, à l'automne, ou bien j'aurais mis des engrais verts, ou bien j'aurais mis du carton, ça veut dire que j'aurais une surface de sol qui serait déjà un petit peu ameublie, et il me suffirait de passer la griffe dans les 10 premiers centimètres.
D'accord. Donc, oui, on peut en parler parce que finalement, ce qui est très très important, c'est de prendre soin de ce sol-là sur toute l'année. Alors, comment faire pour améliorer sa structure, sa composition, sans justement avoir besoin de le modifier et de le retourner ?
Alors, c'est là où il faut changer nos habitudes. Très rapidement, historiquement, à la fin de la guerre, les gens en avaient faim et ils n'avaient plus rien, mais plus rien au niveau matériel. En fait, on a pris l'habitude à ce moment-là de faire des jardins les plus propres possibles, les plus beaux possibles, parce qu'on pouvait être fier que de ça. Et en fait, d'accord, c'est toute cette pratique qui a été, qui a perduré pendant des années. On en revient beaucoup, justement, avec cette vie du sol. Donc, l'intérêt qu'on va avoir, c'est se dire, au contraire, je ne vais pas avoir un sol très propre dans mon jardin, je vais toujours avoir un sol couvert, recouvert. Mmh. Un sol qui est, on en voit en ce moment, hein, des jardins très très bien nettoyés, très très propres, etc. Les précipitations d'eau dessus vont tasser les sols, ils vont faire que les matières organiques qui pouvaient y avoir en surface vont rentrer très profond. C'est pas du tout une bonne chose.
Mmh. D'accord. Donc, ces engrais verts permettent de couvrir le sol, mais c'est aussi une bonne alternative aux produits chimiques. Je pense, enfin voilà, si on appelle ça des engrais verts, c'est que ça a l'intérêt d'un engrais, mais avec l'aspect chimique en moins.
Absolument. Dans nos engrais verts, qu'est-ce qu'on va faire avec un engrais vert ? Ce sont des plantes qui vont fournir de l'azote, hein, l'azote qui est importante pour la pousse en vert après, qu'on retrouve d'ailleurs dans les engrais chimiques. Donc, on peut vraiment le faire de cette façon-là. Notre engrais vert qui va être enfoui va aussi servir d'amendement, hein, donc ça va faire un petit peu le même rôle qu'un compost à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est quand l'engrais aura poussé aussi. Si on a semé, par exemple, en fin d'été, un engrais vert, comprenez bien que les racines vont aller en profondeur chercher des oligo-éléments pour nourrir la plante. À partir du moment où la plante va rester sur place, ces éléments minéraux qui étaient profonds dans le sol, on les remonte donc dans nos 10 premiers centimètres, là, qui va être la surface de terre arable qui est vraiment intéressante à cultiver.
D'accord. Donc, est-ce que tu aurais quelques essences à nous conseiller, adaptées à notre climat lausérien ?
Alors, en fait, ça n'a pas à être adapté au climat. Il faut savoir que les engrais verts vont geler. C'est des plantes gélives annuelles. C'est très important parce que, par exemple, quand on parle de trèfle en amendement comme ça, en engrais vert, eh ben, c'est un trèfle incarnat. C'est pas du tout le même trèfle que celui qu'on voit qui est une plante vivace. Donc, on va pouvoir mettre donc ce trèfle, on va pouvoir mettre des vesses. Hein, ça, c'est des pois, en fait, des pois sauvages qui vont faire des petites nodules au niveau des racines et apporter de l'azote. On peut mettre de la facélie qui est en plus très intéressante parce qu'elle va attirer des insectes, ou de la moutarde, hein, simplement. Voilà des exemples. Mais il en existe beaucoup parce qu'il faut savoir, on y reviendra sûrement après, qu'on va prévoir à l'avance, quand on va mettre son engrais vert, qu'est-ce qu'on va mettre comme plante derrière. Simple exemple, la moutarde est une brassicacée, donc comme les choux, de la même famille. Je disais tout à l'heure qu'elle va puiser des éléments dans le sol et elle risque de puiser beaucoup d'éléments qui risquent de servir aux choux, puisque dans la même famille. Donc derrière la moutarde, on va mettre autre chose qu'un autre brassicacée.
D'accord, très bien. Donc de cette manière, les engrais verts, donc ces plantes-là, peuvent nous éviter d'utiliser des engrais chimiques puisque elles vont permettre de fixer des éléments nutritifs dans le sol et ça va y rester. Est-ce qu'on peut également remplacer des pesticides ou des insecticides chimiques par des produits naturels ?
Absolument. Alors ça, c'est des informations qu'on ne nous donne pas en règle générale, hein, parce qu'il y a le commerce derrière et l'industrie chimique. Mais il faut savoir que même souvent, on retrouve les mêmes molécules, hein, je dirais, parce que la chimie, comme dans les produits pharmaceutiques, arrive souvent après avoir expérimenté des plantes, justement. Alors, ça ferait une liste très longue. Je peux vous donner un aperçu comme ça, en fortifiant et stimulant. On va utiliser, par exemple, de la consoude, de l'ortie, du sureau, de la bardane. En insecticide, ce qui est intéressant en utilisant des produits à base de plantes, c'est que, en fait, on devrait dire insectifuge, parce que ça va surtout être des répulsifs contre les insectes, hein. On essaye de pas tuer. Justement, c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, on pourra faire de la décoction d'ail. Il y a la fougère qui marche très bien, l'ortie, la rhubarbe. On sait qu'on va utiliser les tiges pour faire la confiture, mais les feuilles de rhubarbe, effectivement, peuvent être un répulsif à insectes. Alors après, il y a tout ce qui est fongicide. Par exemple, pour remplacer la bouillie bordelaise, eh bien, il faudrait mieux faire une décoction de prêle, de fougère. Là, on peut trouver aussi des décoctions de sureau ou de tanaisie. Et enfin, il faut savoir aussi que souvent, ces feuilles qu'on aura laissées macérer vont pouvoir être récupérées et vont servir d'activateur de compost. Hein. Quand on est vraiment jardinier, on n'achète jamais de l'activateur de compost parce que des feuilles de consoude, de l'ortie, du pissenlit ou de l'aquilée millefeuille peuvent tout à fait servir comme activateur de compost.
D'accord. Alors, on parle de décoction, on parle aussi parfois de purin. C'est la même chose ou il y a une différence ?
Alors, moi, j'aime pas beaucoup utiliser l'expression purin parce que c'est obligatoirement péjoratif. Hein. Donc, souvent, effectivement, quand on a fait des extraits fermentés de plantes, si on les laisse traîner un peu trop longtemps dans le jardin, ça va sentir aussi mauvais qu'un purin. Il faut savoir que si on suit bien des recettes, il n'y a pas de raison que ça sente aussi mauvais. Donc, je vais essayer de dire un petit peu dans les extraits fermentés. En fait, c'est une mise en fermentation des plantes dans de l'eau. Hein, on va choisir de préférence de l'eau de pluie, qui sera non calcaire. Et on va faire ça à une température comprise entre 15 et 25 degrés et en contrôlant régulièrement la fermentation. Tant que ça fermente, il y a des petites bulles qui vont monter, donc des gaz, hein,
comme dans la bière.
Qui vont s'échapper.
Comme dans la bière.
Comme dans la bière, voilà.
Ça parle peut-être plus de gens, bizarrement.
Voilà. Mais ce serait dommage de la déverser au jardin. Donc, on va à partir du moment où il n'y a plus de bulles, c'est que la fermentation est terminée. Et c'est là qu'on va justement prélever nos végétaux et non pas les laisser pourrir dans l'eau. Alors, dans les extraits fermentés, on peut faire des macérations, parce que là, chaque terme a son importance aussi. Mm-hmm. Donc là, la macération, ce sont des plantes trempées dans l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ça, ce sera bien comme action principalement fongicide contre les champignons. On peut faire une décoction. Alors là, on va hacher les plantes grossièrement. On va les tremper pendant 24 heures dans de l'eau à température ambiante. Puis, on va porter ça à ébullition en 20 minutes, une demi-heure à peu près, à petit bouillon, dans un faitout avec un couvercle, pour ne rien perdre de leur substance. Ensuite, on va laisser refroidir et s'en servir. On peut aussi faire donc des infusions. Alors les infusions, comme on peut faire une tisane, hein, on va plonger les plantes dans de l'eau froide, faire chauffer, puis arrêter juste quand l'ébullition va démarrer. En gros, c'est à 80-90 degrés. Et ensuite, on va laisser infuser jusqu'au refroidissement et on va pouvoir utiliser. Alors donc, ça, on peut bien retrouver sur Internet, par exemple, hein, des recettes comme ça, et bien savoir ce qu'est une infusion, une macération, une décoction.
D'accord. Donc en fait, plus c'est une histoire de temps de cuisson et de temps de macération pour récupérer...
Récupérer un liquide qu'il faut savoir qu'on va très souvent le diluer à 10%. Hein. Donc ne faites pas des grosses quantités. Hein. Quand on voit des recettes quelque part, on dit oui, 10 kilos d'ortie, 10 litres d'eau. Je préfère dire 1 kilo d'ortie, 1 litre d'eau. Déjà, quand on va le diluer à 10%, ça veut dire qu'on aura 10 litres de solution. Mm-hmm. Et c'est aussi souvent pour ça, quand on en a trop d'avance, qu'en fait, ça va pourrir dans un coin du jardin et être désagréable pour tout le monde.
Surtout que l'ortie, on la trouve à toutes les saisons, pas besoin de... Voilà. D'en et prendre puis, beaucoup d'un coup.
Et dans tous les endroits, quand on ne désherbe pas trop.
Voilà. Donc, en fait, jardinier et un peu cuisinier, puisque On peut aussi, avec ces différentes solutions, se préparer nos propres produits. Donc en fait, l'esprit, si j'ai bien compris, c'est d'essayer de fortifier la plante en améliorant les conditions dans lesquelles elles vont pousser et en les rendant plus fortes avec justement ces produits-là. Et puis d'éloigner, de ne pas forcément tuer...
Les insectes, hein, on le sait à d'autres, dans d'autres catégories, mais tout ce qui est au niveau nature, quand on a un excédent d'une prolifération d'une espèce, alors que ce soit des insectes ou que ce soit des animaux, si on laisse faire la nature, on va voir qu'elle va rééquilibrer tout ça. Hein. Donc si on supprime par exemple les pucerons, il y a des gens qui se plaignent de jamais avoir de coccinelles. Oui, s'ils suppriment au fur et à mesure les pucerons, ils n'auront jamais de coccinelles. Mmh. Si on les laisse se reproduire, eh bien c'est là où les coccinelles vont aussi faire leur travail. Il voilà. faut bien penser à cet équilibre.
D'accord. Donc plus c'est équilibré, moins on devrait avoir de gros soucis, quoi.
Et meilleurs seront nos végétaux, parce que c'est quand même bien ça, quand tu disais tout à l'heure, la finalité du jardin, c'est bien la cuisine, quoi, derrière,
voilà.
Hein, et se régaler.
Ouais, exactement. Eh ben merci, Jackie. Pour ces premières astuces, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler encore, cette fois-ci, d'association et de rotation de culture. Donc là, à réfléchir vraiment à long terme sur la façon de faire son potager.
Avec plaisir.
Au revoir.